Chapitre 3. La grande salle à manger, qui peut accueillir 20 convives, manque d'intimité pour la conversation que Wainwright Hollister souhaite avoir avec Thomas Buckle. Il lui préfère la pièce du petit déjeuner, séparée de l'immense cuisine par l'office sur lequel règne un maître d'hôtel. Seule une grande toile de Francis Bacon, mélange inquiétant de taches, de volutes et de lignes brisées, meuble le mur de la pièce qui fait face à l'immense baie vitrée donnant sur les buissons derrière lesquels s'étendent des prairies vallonnées. Les deux hommes prennent place à une table en verre et inox. Hollister a veillé à placer son invité face à l'immensité de son ranch isolé, dont il aura pu mesurer la nature sauvage lorsqu'il comprendra le rôle de gibier qu'on entend lui confier. Lui-même s'assied face au jeune cinéaste. Le tableau chaotique de Bacon symbolisant à merveille sa conception d'une humanité qu'il ne conçoit pas de diriger autrement que par la force et la violence. Le chef, André, s'active en cuisine, et la charmante Mai Mai est chargée de les servir. Elle commence par leur apporter une petite assiette de chips de parmesan servie avec un pinot gris glacé. Dans le sillage de la jeune femme flotte un subtil parfum de verveine. Tom Buckle tombe sous le charme de la beauté et de la grâce de Mai Mai. La façon dont il s'efforce d'engager la conversation avec elle est presque comique. Elle traduit moins son attirance pour elle que le contraste entre ses origines modestes et le luxe qui l'entoure. Le fils du tailleur et de la couturière, mal dans son élément, ne possède pas les codes. Il discute avec la jeune femme comme s'il s'agissait d'une serveuse de restaurant. Parce qu'elle a été bien formée, Mai Mai reste polie sans se départir d'un sourire distant. Hollister attend qu'elle ait quitté la pièce pour lever son verre. « À la grande aventure qui nous attend !» Il sourit intérieurement en voyant Buckle se lever de son siège de quelques centimètres, prêt à trinquer avec son hôte, avant de comprendre que la table est trop large. Il se rassoit maladroitement en feignant d'avoir simplement voulu changer de position sur sa chaise. « À une grande aventure !» Wainwright Hollister attend d'avoir goûté son grand cru pour reprendre la parole. « J'ai l'intention d'investir 600 millions de dollars dans une série de longs métrages, sans m'associer pour autant à l'un des grands studios dont je sais déjà qu'il m'accorderait moins d'1% de retour sur investissement, voire rien du tout. » C'est faux, mais le sourire avec lequel il a ponctué sa phrase convaincrait un Esquimau de lui acheter des pains de glace. Buckle sait forcément que son interlocuteur possède une fortune de 20 milliards de dollars, mais l'évocation d'un tel investissement le laisse pantois. « Eh bien, c'est-à-dire, vous n'auriez aucun mal à vous constituer un catalogue très appréciable avec une telle somme. » Hollister opine. « Exactement. À condition d'éviter tous ces effets spéciaux ridiculement onéreux dont Hollywood est si friand. Voyez-vous, Tom, je pensais plutôt à des productions sérieuses comme les vôtres, réalisées avec un budget moyen de 20 à 60 millions de dollars. Des œuvres intemporelles, encore capables de parler aux spectateurs dans 50 ans. » Hollister lève à nouveau son verre, Buckle l'imite, des paillettes plein les yeux. Le milliardaire se penche chaleureusement vers son hôte. Tom, laissez-moi vous raconter une histoire qui ferait, à mon sens, un formidable scénario.
Bien sûr, avec plaisir.
N'hésitez pas à me le dire si vous trouvez l'idée trop banale ou insipide. Entre associés, l'honnêteté est essentielle.
Le mot associé encourage Buckle à se lancer.
« Nous sommes bien d'accord, Wayne. Le mieux est que vous racontiez votre histoire avant tout commentaire de ma part. J'ai besoin de prendre la mesure du concept. »«
Vous avez forcément entendu parler de Jane Hawke. » »«
Comme tout un chacun, son nom fait la une des médias depuis des semaines. » »«
Une femme convaincue d'espionnage, de trahison et de meurtre, » enchaîne Hollister.
Buckle hoche la tête en signe d'assentiment.
Il semble même qu'elle ait assassiné son propre mari, un héros des Marines. Contrairement à ce que l'on pensait, il ne se serait pas suicidé.
Hollister se penche un peu plus vers son hôte, la tête légèrement de côté, avant de poursuivre sur un ton de conspirateur.
« Et si toute cette histoire n'était qu'un tissu de mensonges ?»
Buckle affiche sa perplexité. « Des mensonges ? Je ne vois pas comment ce serait possible. Je veux dire... »
Hollister l'arrête d'un geste.
« Écoutez plutôt la suite. »
Il marque une pause en grignotant une chips de parmesan. À son tour, Buckle en porte une à sa bouche.
« Elles sont délicieuses et parfaites avec ce vin. »
André, mon chef, est un modifié. Il ne vit que pour ses fourneaux.
Si le terme « modifié » paraît étrange à Thomas Buckle, il n'en montre rien et Hollister poursuit après avoir bu une gorgée de vin.
À entendre ses amis, Jane refuse de croire que son mari ait pu se suicider. Elle est persuadée qu'il a été assassiné, ce qui l'a poussée à prendre un congé sans solde du FBI afin d'enquêter sur ce drame. De leur côté, les autorités et les médias affirment qu'il s'agit d'une simple diversion pour écarter d'elle les soupçons. On prétend qu'elle aurait drogué son mari avant de le mettre dans la baignoire et de lui trancher la gorge à l'aide de son poignard de combat des Marines, de façon à accréditer la thèse du suicide.
Et si tout ça n'était que mensonge ?
Buckle, intrigué, hoche la tête.
La fiction repose intégralement sur la notion de « et si ?»
Hollister se rengorge.
À en croire les recherches effectuées par Jane, on aurait assisté à une augmentation de 15% du nombre de suicides ces dernières années. Les personnes concernées seraient des individus stables et équilibrés, bien dans leur vie et leur couple, à l'image de son mari.
L'émission Sunday Magazine a consacré récemment un numéro spécial à Jane Hawke, reprend Buckle. Les experts interrogés affirmaient que les statistiques en matière de suicide fluctuaient constamment.
N'oubliez pas que j'ai dit « et si, Tom ?» Et si les médias étaient complices? Et si Jane Hawke avait découvert le poteau rose et qu'on cherchait à la diaboliser afin de la museler?
Vous pensez à un complot?
Exactement.
Dans ce cas, il s'agirait d'un complot de proportions inédites.
Tout à fait, approuve Hollister. Un complot impliquant des milliers d'individus haut placés, au cœur de l'État comme dans les médias. Imaginons que ces conspirateurs se fassent appeler les techno-arcadiens.
L'ancienne Arcadie des Grecs de l'Antiquité, un lieu de paix, d'innocence et de prospérité, une sorte d'utopie.
Hollister, le visage rayonnant, applaudit.
J'étais certain que vous seriez capable de comprendre.
Pourquoi le mot techno ?
Êtes-vous familier avec le concept de nanotechnologie, Tom ?
Des machines microscopiques constituées d'une poignée d'atomes ou de molécules. Certains y voient l'avenir de l'humanité grâce aux applications médicales et industrielles qu'on pourrait en tirer.
Vous êtes décidément bien informé,
déclare Hollister en enfonçant un bouton installé sur un pied de la table.
À la vue de vos films, je m'en suis tout de suite douté. Je suis ravi de constater que je ne m'étais pas trompé.
Maïmaï, alertée par le signal invisible, vient remplir les verres. Elle en profite pour emporter les assiettes de chips au parmesan. Thomas Buckle la remercie en lui adressant un sourire. Il semble avoir compris qu'elle ne travaille pas dans une chaîne de restaurants et que le mieux est d'afficher un minimum de réserve. Le showbiz n'a pas encore eu le temps de le corrompre, et si Maïmaï l'attire, il ne pose pas sur elle un regard concupiscent, se contentant de l'observer avec une fascination quasi adolescente. Hollister attend que la jeune femme se soit éclipsée pour reprendre.
Supposons que nos techno-arcadiens aient mis au point une nanomachine, un mécanisme de contrôle implanté dans le cerveau qui transforme les sujets concernés en marionnettes. Des marionnettes qui n'ont pas conscience d'avoir été transformées en esclaves, puisqu'elles ne savent pas ce qu'on leur a fait. Le jeune cinéaste bat des paupières. Il sent monter en lui une bouffée d'excitation née de sa passion pour le cinéma, indépendamment des 600 millions de dollars promis par son interlocuteur. Le scénario repose donc sur le concept de libre arbitre. Les auteurs de cette conspiration ont décidé d'asservir l'humanité entière, ce qui signe l'arrêt de mort de la liberté, une sorte de servitude technologique. Hollister sourit avec la naïveté d'un scénariste amateur, ravi que son histoire puisse séduire un professionnel confirmé. Jusque-là, qu'en dites-vous? Ça vous plaît? Carrément, ça me plaît même de plus en plus. Même si l'inspiration vient clairement de Jane Hawke, ce n'est pas son histoire. Il faut donc imaginer un autre personnage, une femme travaillant pour la CIA par exemple, quelqu'un d'un peu plus âgé, ou alors un héros masculin. Reste un problème à résoudre. Pourquoi les gens acceptent-ils de recevoir un tel implant cérébral? Hollister répond dans un murmure théâtral, penché vers le réalisateur, en ponctuant sa phrase d'un clin d'œil. Tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de les opérer. Il suffit de les droguer ou de les maîtriser d'une façon ou d'une autre et de leur injecter la nanomachine.